Voilà, bonsoir à tous. Il est 19h30, donc je vous propose de commencer. Merci infiniment de votre présence ce soir pour parler donc de mon livre. Donc je suis Camille de Villeneuve, mon livre « Aimer pour rien, la forme intellectuelle de l'amour pur du 12e au 20e siècle ». Et je voudrais beaucoup, très vivement remercier Élodie Pinel et Stéphane Loiseau qui me font l'honneur et la joie d'être présent pour discuter de ce texte avec moi. Donc ce texte est le fruit de mon travail de thèse. J'ai mis beaucoup de temps à l'élaborer et à publier finalement ce travail, presque une dizaine d'années. Oui, je suis lente, très lente. Mais j'ai été très heureuse d'avoir le temps d'y travailler parce que cela m'a permis de prolonger ce qui était le cœur de la thèse, plus proprement consacré à la modernité, Moyen-Âge et modernité, de pouvoir le prolonger jusqu'au 20e. Donc ça a été aussi un travail de prolongement, de déploiement de cette notion du pur amour jusqu'au 20e. Je vais dire quelques mots sur mes collègues et amis qui sont ici présents. Élodie Pinel, docteur en littérature française, chercheuse associée au CSLF, Centre des sciences des littératures en langue française, de l'Université Paris-Nanterre. Elle est agrégée de lettres modernes et de philosophie, elle a les deux agrégations s'il vous plaît. Elle est spécialiste des autrices de textes spirituels des 13e et 14e siècles et elle a consacré une magnifique thèse de doctorat au miroir des âmes simples et anéantie de Marguerite Porrette, qui est à paraître en 2027 chez Classique Garnier. Elle est par ailleurs une très fine essayiste. Je vous recommande ses livres « Pour en finir avec la passion, l'abus en littérature » chez Amsterdam en 2023, ou « Moi aussi, je pense, donc je suis, quand les femmes réinventent la philosophie » chez Stock en 2024. Elle est actuellement chargée de cours à l'Université de Paris, Panthéon, Sorbonne, et elle intervient avec une grande générosité auprès de toutes sortes de publics sur les sujets qui lui sont chers. Stéphane, mon cher collègue, est docteur en théologie et en philosophie. Après un master sur Maître Eckhart, il a fait sa thèse sur Thomas d'Aquin, dont il est ici le maître. Sa thèse a été publiée sous le titre « De l'écoute à la parole » aux éditions du CERF en 2017, et il enseigne ici la philosophie depuis 2019, donc aux facultés Loyola Paris. Il enseigne principalement la philosophie médiévale, 13e, début du 14e siècle, et il se passionne aussi pour Christine de Pizan, à laquelle il a consacré un enseignement cette année. Il aime aussi beaucoup les abeilles. Il a tenu à ce que je vous transmette cette information. Comme nous tenons encore à la galanterie à la française, nous commencerons par Élodie.
Merci beaucoup Camille. Merci d'abord de m'avoir invitée à introduire ton ouvrage et à présenter un certain pan de ta démarche et de tes résultats de recherche en ouverture de cette soirée. Et je te remercie infiniment pour cette belle présentation que tu as faite de mon parcours. J'orienterai mon propos sur les penseuses, les figures féminines mystiques qui sont abordées dans cet ouvrage, donc Aimer pour rien, qui, à mon sens, se distingue notamment, entre autres, hein, par ce choix de corpus et la manière dont tu as porter un regard philosophique approfondi sur ces œuvres de femmes du Moyen-Âge. Et pour pouvoir vous faire comprendre à quel point cette démarche est à la fois décisive et pas si fréquente que ça, donc à mon sens singulière et audacieuse, je commencerai par un état de l'art, en fait, hein, de ce qu'il en est de l'étude de ces textes. Et comment est-ce que Camille, dans cet ouvrage, permet de les mettre en valeur, mais aussi de les prendre au sérieux et de mieux les comprendre. Et je commencerai peut-être par une anecdote qui est notre rencontre, puisqu'on s'est rencontrés autour de Marguerite Porrette, au moment où on était toutes les deux doctorantes. Et je relève ce que tu viens d'indiquer sur le fait que le temps de recherche sur Marguerite est long. Ça a été mon cas aussi. Je pense que c'est aussi dû à l'objet d'études qui est très complexe, en fait, hein, qui demande une démarche de patience, de persévérance et d'approfondissement. Dans mon souvenir, nous étions confrontés à une difficulté méthodologique aussi face à ce texte, qui était de réussir à le situer dans un contexte. Et on avait cette difficulté commune, puisque on était toutes les deux fascinées, évidemment, par ce texte qui est tellement original, perturbant et qui stimule vraiment la réflexion et qui nous invite à aller chercher, en fait, davantage, à comprendre d'où il vient. Et en même temps, une espèce de sidération face à l'ampleur de la tâche, puisque on ne sait pas trop par où commencer, et souvent les textes dont on aurait besoin pour éclairer le miroir des âmes simples, eh bien, sont des textes qu'on n'a pas forcément nous rencontrés dans un cursus universitaire. Donc il faut aller chercher et qu'il faut aborder souvent seul. Et le fait de se rencontrer à ce moment-là m'a été très utile. Et on a reconstitué une espèce de micro-communauté de recherche comme ça, sororale, on va dire. Hein. Donc ça a été précieux d'échanger aussi parfois nos références. Et en ce sens, le travail que tu livres dans cet ouvrage est le reflet aussi de ces recherches, de cette émergence d'un corpus qui est tout près, qui nous attend dans des revues parfois du 19e, chez des chercheurs un peu oubliés, parfois des historiens de la pensée, des théologiens, des philosophes, en langue française, en langue allemande, et qu'il faut aller convoquer, en fait, hein, qu'il faut aller chercher dans des bibliothèques avec beaucoup de patience, et ils nous livrent toute la richesse, en fait, de ces textes. Cette anecdote étant dite, ce qui m'a semblé retrouver en la lecture de ton livre, c'est justement cette importance d'une pensée mystique féminine dans son versant, en l'occurrence médiéval. C'est la démarche de Camille va au-delà du Moyen-Âge, mais bien sûr, en tant que médiéviste, je me suis beaucoup nourrie de son analyse de la pensée médiévale, puisque c'est une pensée qui est souvent négligée, voire discréditée, en tout cas, à plus forte raison dans son versant féminin. L'ouvrage Aimé pour rien nous propose une circulation dans ces textes qui est une circulation raisonnée, qui nous permet en fait de comprendre comment est-ce que ces différentes femmes, je vous les citerai tout à l'heure, hein, un certain nombre d'entre elles, ont pensé ensemble, ont pensé les unes avec les autres, pas forcément en se connaissant directement, mais grâce aux textes les unes des autres. Et c'est une démarche, cette mise en connexion, en fait, d'un certain nombre de textes, cette reconstruction de communautés textuelles, comme on les appelle selon le terme de Brian Scott, Stock, pardon. C'est une manière, en fait, de refaire leurs gestes, de renouer avec ce passé et en même temps de prolonger une histoire de la pensée qui est parfois oubliée et qui est vraiment nécessaire. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de groupes de recherche qui s'inscrivent dans cette démarche. Là, j'ai quelques événements à vous mentionner. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais de manière très très récente, il s'est tenu un colloque en Écosse en octobre 2024 au sujet des femmes oubliées de l'histoire en général, mais il y a eu des sessions spécifiques sur les femmes en philosophie et sur les femmes du Moyen-Âge. Également au congrès international de Leeds en juillet dernier, donc en juillet 2025, toute une journée était consacrée à ces femmes entre théologie, spiritualité et philosophie. une journée d'études à Louvain, aussi à l'Université de Louvain, tout récemment en septembre 2025, et à venir en mai prochain à Montréal et au-delà à Paderborn, donc en Allemagne, avec le groupe de recherche New Voices in the History of Philosophy, une université d'été qui consacrera là aussi une partie de son programme aux femmes dont traite Camille dans cet ouvrage. Donc il y a un engouement qui grandit, qui n'est pas non plus radicalement nouveau, hein, qui vient quand même depuis des décennies, qui s'amplifie. Et à mon sens, l'ouvrage de Camille permet de poser une pierre supplémentaire, mais surtout de passer une étape dans cette construction d'un savoir sur ces femmes, puisque un des grands apports de cet ouvrage, c'est de mettre ces textes en relation et d'aller sonder leur articulation. À propos de ce corpus féminin, Bernard McGuin avait parlé de théologie vernaculaire, c'est-à-dire de la théologie en langue vernaculaire. Donc il avait fait émerger cette formule suite à une étude que mon collègue connaît très bien, sur Maître Eckhart et les Béguines, en 1993, lors d'un colloque, ça a donné lieu à une publication en 1994. Donc on voit que la formule n'est pas radicalement nouvelle, hein, quand même 30 ans. Néanmoins, c'est encore un champ qui demande à être investi, approfondi, et c'est aussi le sens de ta démarche, puisque qu'est-ce qu'une théologie vernaculaire ? En fait, ce n'est pas seulement le transfert d'une pensée théologique d'une langue, la langue latine, vers une langue dite vulgaire, ou des langues vulgaires, mais c'est aussi un renouvellement de la pensée, puisqu'en changeant de langue, on change aussi de cadre, et les concepts s'en trouvent renouvelés. Donc, il y a une réappropriation d'une reviviscence de ces concepts, notamment celui d'amour, mais aussi celui de volonté, de liberté et de désir. Et en changeant de langue, on autorise aussi d'autres types de circulation des textes qui vont être traduits d'une langue vernaculaire à une autre. Et c'est notamment le cas de Marguerite Porrette, dont Le Miroir va être traduit dès le début du XVe siècle en moyen anglais et en italien, donc du 14e. Donc on a des circulations en dehors de l'institution, des circulations parfois dans des milieux même totalement laïques, parfois semi-religieux, semi-laïques comme ceux des Béguines, et on voit un engouement en fait de beaucoup plus de lecteurs, de lectrices, d'auditeurs, d'auditrices de textes que ceux auxquels on a l'habitude d'être confronté quand on mène des études de philosophie médiévale ou de théologie, puisqu'on a l'impression que les discours sont limités à un seul lieu, qui est l'université, l'école cathédrale ou le cloître. Enfin, une seule série de lieux, vous avez compris, il y en a pas, j'en viens d'en énumérer trois. Et donc dans cette théologie vernaculaire, il y a aussi l'idée d'un changement de méthode, puisque on ne peut plus apprendre appui sur les autorités. On ne peut plus se réclamer d'un certain nombre de références puisqu'on n'y a pas accès. Et ça ne veut pas dire qu'on invalide ces références, qu'on refuse en fait ces textes ou ces auteurs, mais que l'on est invité, convoqué à penser autrement. Et donc le rapport au texte, notamment biblique, va se faire sous le signe de l'innutrition, d'une espèce d'imbibation, excusez-moi l'image n'est pas très heureuse, mais en tout cas une imprégnation, ça c'est sûr, qui va faire fi de la démarche de citation et qui va mêler la voix auctoriale avec la voix des textes. Des textes sacrés, des textes bibliques, ce qui nous conduit souvent à mettre en avant un dispositif d'écriture qui est un dispositif d'inspiration, puisque la limite entre le discours personnel et le discours issu de Dieu va s'amenuire au fur et à mesure. Donc ce corpus très particulier de textes qui a déjà été donc identifié mais qui n'a pas fini d'être exploré, cet ouvrage permet d'y rendre hommage et de le prendre là aussi au sérieux, hein, pour pour revenir au terme que j'ai utilisé tout à l'heure. Alors évidemment, la qualification de philosophie est toujours une question, puisque il s'agit, et tu l'indiques aussi en conclusion, de ne pas limiter ces textes à une optique strictement théologique, mais aussi d'en les prendre au sérieux en tant que pensée. Et on a toujours cette question de s'agit-il réellement de philosophie? Qu'est-ce que donc la philosophie? On est amené à adopter un point de vue historiciste, en fait, hein, sur la philosophie, de se dire que veut dire philosophie à l'époque, quel est le sens qu'on donne à cette discipline aujourd'hui, et en quoi peut-être notre manière de définir cette discipline comme un laboratoire d'élaboration de concepts éclaire une démarche qui ne se pensait pas comme ça à l'époque. Donc, en l'occurrence, en l'espèce, hein, le concept de pur amour se trouve proprement défini, réinventé, remodelé par tous ces textes et toutes ces autrices, toujours avec une grande créativité, y compris dans la forme, avec des images singulières, avec des positionnements énonciatifs singuliers, et c'est ce qui fait aussi la richesse donc de ce point de vue doctrinal. Et donc une fois ces préalables posés, ce qui me tenait à cœur, c'était de soulever l'originalité, l'audace et l'apport de ton ouvrage, puisqu'à partir d'un concept complexe qui est celui d'amour, déjà c'est un concept qui n'est pas évident, mais en plus dans cette acception-là du pur amour, tu as pris et tenu le pari d'en dresser une généalogie et d'explorer toutes ses ramifications, jusque dans le souci de leurs articulations. Et c'est sans doute là ce qu'il y a de plus complexe, et c'est pourquoi je te suis très reconnaissante, parce que on a l'impression que tout ça coule de source, que tout est logique, que ça se construit bien, alors qu'évidemment, quand on fréquente ces textes, on a parfois l'impression d'un patchwork, et on a du mal à comprendre exactement, à retracer le fil de ces échos, de ces divergences, même dans une période limitée du 12e au 14e, par exemple, on a un éclatement comme ça de textes et de pensées et de voix, et tu nous offres la possibilité d'en opérer une synthèse, ce qui est réellement précieux. Par ailleurs, ta démarche, elle prend au sérieux, c'est celle d'une prise au sérieux donc de la pensée féminine, sans réduire cette pensée au genre féminin, sans en faire un sujet, en fait, justement, et de naviguer dans plusieurs courants, plusieurs écoles, en observant ce dialogue des textes, quel que soit le positionnement de l'auteur, de l'autrice, de voir une imprégnation mutuelle, un dialogue au sens plein du terme. Donc on voit notamment la manière dont Jean Gerson va réinvestir le miroir et le trahir, ou en tout cas le prendre comme un repoussoir, et tu retraces la manière dont sa spiritualité va l'emporter à un moment, en tout cas dans certains milieux, et va gauchir le discours de Marguerite Porrette. Donc ça peut être aussi un point sur lequel j'aimerais bien que tu puisses nous éclairer à nouveau ce soir. Et ta perspective est résolument transdisciplinaire, puisque à l'analyse philosophique de concepts théologiques s'ajoute une attention au texte littéraire, donc à une grande ouverture en fait en termes de corpus, puisque tu vas notamment convoquer Tristan Iseult pour ce qui est des textes médiévaux, mais aussi dans une perspective plus contemporaine, l'histoire de Griselda qui va être reprise à travers les siècles, ou Belle de Jour de Kessel, entre autres. Et ce qui me semblait vraiment éloquent et galvanisant en fait, hein, dans cette approche, c'est d'avoir Marguerite Porrette. Bon, je suis un peu jugée partie, hein, parce que bien sûr je suis déjà très gagnée par la pensée de Marguerite, mais de la prendre comme centre et finalement comme comme rayonnement. C'est-à-dire que c'est, et tu, j'aimerais que tu nous indiques si c'est vraiment comme ça que tu l'as conçu. Est-ce que c'est celle qui t'a permis de naviguer dans ce champ, dans ce corpus, et peut-être d'être ton fil d'Ariane aussi pour aller à la rencontre de ces différentes autrices, dont je vais vous citer quand même quelques noms pour en finir avec ce suspense insupportable. Donc on rencontre au fil de ces pages Adjewich d'Anvers. Alors la une ou la deux, vous savez qu'on ne sait pas toujours à quelle Adjewich, à quelle personne réelle sont à attribuer les textes, que ce soit les lettres ou les poèmes. Donc là, en l'occurrence, dans les lettres, il est question de cette expression de « sans pourquoi » qu'on retrouve chez Marguerite Porrette avec la liberté « sans pourquoi » et qui apparaît déjà dans les textes néerlandais attribués à Adjewich. Et donc, on a cette question déjà de la circulation de la pensée béguinale en général et de Marguerite en particulier. Oui.
S'il vous plaît, je crois que j'ai pas mal de têtes blanches.
Oui.
Et votre débit est très, très rapide.
D'accord.
Alors, si vous pouviez, pour qu'on puisse intégrer nos cerveaux.
Merci.
Et parler dans le micro, nous savourons davantage.
OK.
Merci, madame.
Très bien.
Très bien, mais je vous présente mes excuses pour cette célérité. Donc, on parlait d'Adjewich, d'Anvers, et il se peut que ma prononciation ne soit pas idéale. Hein. Je suis pas néerlandophone. Pour ce qui est de cette autrice du XIIIe siècle, des Pays-Bas, la question qui se pose, c'est la circulation d'une formule, la formule « sans pourquoi ». Est-ce que cette formule se trouve d'abord chez Adjewich et se trouve ensuite chez Marguerite, parce qu'il y aurait eu une circulation des textes d'Adjewich vers la France, et peut-être que Marguerite en aurait eu connaissance par ce moyen, en fait. Hein. Comment est-ce que on peut retracer de manière plus ou moins certaine ou de manière probable cette pensée, en fait, du pur amour dans l'Europe médiévale. Une deuxième autrice qui est citée, c'est Gertrude Defta, pour un texte qui s'appelle Le Héros, dans lequel elle évoque le pardon de ses fautes et qui indique qu'elle est prête à subir l'enfer par amour pour Dieu s'il le faut. Donc on rejoint la supposition impossible et je pense que mon collègue en parlera plus en profondeur. Là aussi, on est à travers une autre, on arrive à un autre territoire qui est celui du Saint-Empire germanique de l'époque. De nouveau, question de la circulation des textes et des pensées. Angèle de Foligno apparaît à propos de son mémorial et de ses instructions. Elle définit l'amour pur comme résidant dans la vision de Dieu. On touche par là à cette Italie du Nord et au milieu franciscain. Qu'en est-il du rapport de Marguerite à différents ordres religieux de son époque? Et deux derniers noms de femmes mystiques du Moyen-Âge, Béatrice de Nazareth, avec ses 7 degrés d'amour, qui met en avant le caractère inconditionnel de l'amour. C'est sous sa plume, même si c'est peut-être une plume déléguée, mais qu'on trouve l'expression « pour rien »,« servir pour rien », donc l'idée de gratuité, en fait, hein, du service d'amour, qui donne d'ailleurs son titre à l'ouvrage de Camille de Villeneuve. On est dans cette communauté textuelle, cette communauté de pensée, et Mechthild de Magdebourg, avec la lumière fluente de la divinité, qui déplore la séparation de l'âme vis-à-vis de Dieu, et qui accepte de sacrifier son salut personnel au nom du salut collectif. On est dans une radicalité de la pensée de l'amour de Dieu qui questionne la notion de pureté. Est-ce que pour qu'un amour soit pur, est-ce qu'il faut qu'il soit radical? J'en ai fini avec ces quelques points de questionnement. Et je voulais encore une fois remercier Camille pour cet ouvrage qui me semble décisif, autant pour la reconnaissance et l'étude de ses pensées que pour la mise en avant de leur richesse et de leur subtilité.
Merci beaucoup, Élodie. Donc, on reprendra notre discussion tout à l'heure. Stéphane.
Très bien. Chère Camille, chère Élodie, merci pour la possibilité d'intervenir maintenant. Et en intervenant, Camille, après Élodie, je voulais d'abord te remercier de m'avoir associé à cette soirée. S'il est toujours agréable de voir une thèse enfin publiée, le plaisir est décuplé quand il s'agit d'une publication qui vient s'ajouter à des ouvrages littéraires déjà reconnus de ta part, ce qui donne une qualité littéraire à l'ensemble de ta thèse, sans perdre la pertinence technique du propos. Tu nous as plutôt habitués dans ta bibliographie à des fictions, avec les toreros divers et variés. Ici, chaque sillon littéraire dont tu rends compte existe bien, et ton talent d'écriture vient les mettre en lumière et en harmonie. Pour prendre un bref exemple que j'ai déjà utilisé en cours dans la maison comme formule synthétique, tu ressaisis la figure de Job, et cela dénote bien cet art que tu as de bien dire les choses. Je cite « Dieu n'attend pas de l'homme obéissance et bonnes actions. En échange, l'homme ne doit pas attendre de Dieu le bonheur. » Point. Page 29. Cette synthèse-là en théologie morale mériterait des heures de travail. Nous avons entendu combien les figures féminines médiévales sont les jalons principaux de ta traversée de l'amour pur, de ses sources antiques, à ses réalisations les plus contemporaines. Donc je reviendrai peu sur les figures féminines, mais dans ma joie pour la manière dont tu traites la thématique, il y a aussi justement cette place donnée à la période médiévale, cette période qui est le bien commun de nos imaginaires théologiques européens, plus ou moins assumés, creusés de bouillonnement intellectuel pour celui qui connaît, et parfois considérés comme trop lointains pour ceux qui ne les voient pas directement. En tout cas, c'est la clé de voûte de ton parcours que tu nous donnes, et la place évoquée du miroir aujourd'hui par Élodie vient bien le confirmer. Je voudrais m'arrêter ce soir sur une première grande force de ton livre, qui est la sécularisation de la notion d'amour, d'amour pur, qui permet d'approcher la problématique théologique et spirituelle sous l'angle de la philosophie. Qu'est-ce que cela signifie ? Aimer pour rien, voilà le titre. L'amour pur, c'est bien ton objet. Et cet amour pur, tu le définis dès les premières lignes de ton texte, avec, en termes philosophiques, je cite, « que ce qui résiste au désir, le révélant tel, le comble, et donne accès à une forme de bonheur et de liberté, aussi nommé amour. » Voilà donc, fin de la citation. Voilà cet amour pur qui jaillit entre ces paradoxes que tu évoques, l'épreuve de la non-réciprocité, et l'apprentissage de l'indifférence, et c'est bien cela que j'appelle ici la sécularisation de la notion de cet amour pur. Sécularisation parce que si nous regardons dans les dictionnaires à amour pur, nous arrivons vite à la controverse autour de l'amour pur, dont le barycentre devient le quiétisme, avec l'opposition de Bossuet et de Fénelon, autour de sa correspondance avec Madame Guyon et la bulle Celestis Pastor de 1687, et le dictionnaire de spiritualité conclut sur cette querelle « Quelle que soit l'histoire de l'amour pur depuis l'Antiquité au Moyen-Âge, le quiétisme apparaît comme une doctrine ou une pratique caractérisée par un amour totalement désintéressé, jusque-là tu le suis, tendant au moins théoriquement à la disparition du sujet. » Là, il y aurait probablement à retravailler. Le dictionnaire de théologie catholique, pour sa part, renvoie à quiétisme si l'on cherche amour pur, ce qui est assez intéressant, et l'article en question est focalisé par la controverse quiétiste du XVIIe siècle. Son approche permet de s'intéresser à l'apatheia depuis les pensées antiques, mais le dictionnaire dénonce tous les risques spirituels attachés à cette doctrine et conclut, je cite, « La spiritualité vraiment sûre est celle qui, dans tous les degrés de la vie spirituelle, laisse à l'effort moral la place qui lui convient. » C'est donc la crise du XVIIe siècle qui justifie l'entreprise historique d'archéologie de cette apatheia et qui trace ses réalisations dans la tradition chrétienne pour les dénoncer. Et la conclusion dans le dictionnaire toujours sur la figure de Maître Eckhart est intéressante puisqu'il vient dire « cet abandon quiétiste à la volonté divine, permissive et tout à fait illégitime ». Fin de la citation. Ce qui est dénoncé ici, c'est l'oisiveté spirituelle, latente ou réelle de ceux qui professent cette doctrine. Et ce qui me semble le plus intéressant, car il ne s'agit pas pour moi de juger l'évaluation doctrinale du quiétisme dans ces dictionnaires, vous imaginez bien, c'est la portée théologique et spirituelle de la réflexion. La question de l'amour pur est pensée à partir de la réalisation, catholique ou non, de l'amour de Dieu dans le cadre d'une foi chrétienne qui réfléchit à son propre acte. C'est la porte d'entrée du dictionnaire. L'ouverture à l'au-delà de la frontière épistémologique de la théologie est d'intérêt scientifique, au sens où la pensée pré-théologique, antique, peut rendre compte d'un certain nombre de ressorts de réflexion théologique. Mais une fois la question théologique mise en lumière, elle s'autosuffit, il n'y a plus de place pour une philosophie autre. Comment faut-il aimer Dieu en régime chrétien en respectant la dignité morale de l'homme et la transcendance divine? Voilà la seule question qui reste à l'issue d'un parcours archéologique tel que nous le livrent les dictionnaires. À l'inverse, le point de départ comme le point d'arrivée de ta recherche honore la quête philosophique pour elle-même, avec un point de départ universalisé qui n'est pas d'abord théologique. Ce sont, je cite, l'épreuve de la non-réciprocité et l'apprentissage de l'indifférence qui suscite la question. C'est l'intérêt conceptuel, page 12, avec ce qu'il comporte d'existentiel dans ses résonances philosophiques et psychologiques qui t'intéressent. Je ne parlerai pas beaucoup des résonances psychologiques, mais il y en a beaucoup, avec une mise en cause sociétale tout à fait intéressante tout au long du livre. Tu assumes ce projet de sécularisation de la notion, je cite, « L'amour de Dieu soulève un problème métaphysique, celui de notre attachement à la réalité avant d'être une question éthique. » Fin de la citation. Point de départ qui assume donc que la théologie et ce qu'elle a produit puissent être un moment d'une recherche philosophique plus large. Avec un brin d'humour, je dirais que tu honores le second mouvement de Fides et Ratio. Non seulement la philosophie nourrit la théologie pour lui donner un objet, méthode et matière, mais en retour avec ton livre, la théologie nourrit cette quête humaine de sens bien au-delà de la frontière de la foi. Et ta méthode te permet de mener cette sécularisation de l'amour à son terme. Tu honores réellement la place prise par la controverse autour de Fénelon. Tu as une trentaine de pages qui s'arrêtent sur ce moment théologique, riche sur la question de l'amour pur. Mais le parcours historique que tu proposes permet de dépasser cet apogée théologique conçu comme résolution définitive des questions. Et en cela, tu te sépares effectivement de Jacques Lebrun, dont tu mentionnes le livre que tu as apporté ici, « L'amour pur de Platon à Lacan », et tu te sépares effectivement de lui, malgré le livre et sa grande qualité, mais dont tu dénonces le prisme de recherche, qui traite finalement de manière marginale de la longue période médiévale, s'attachant à relier l'avant et l'après Fénelon à Fénelon. Et le traitement médiéval dans cet ouvrage de la question consiste principalement à repérer la doctrine de l'amour et son évolution historique au prisme du thomisme du XXe siècle, avec les études de Rousselot et de Gégère. Toi, tu désires montrer que le moment médiéval est essentiel pour une histoire de la notion d'amour, et tu le fais avec talent. Au plan épistémologique, dès l'entrée de ton livre, ces questions de la réciprocité et de l'indifférence dans l'amour relient le profane et le religieux avec les figures de Narcisse et de Job. Job, nous en avons parlé, avec ce que cela comporte de conversion du désir de Dieu. Narcisse, qui lui, je cite, « meurt d'avoir ignoré le véritable amour qui s'offrait à lui ». Fin de la citation. Métissé profane et religieux demeure ta méthode pour l'époque médiévale. Et la place que tu accordes, on l'a brièvement évoquée, aux romans médiévaux, avec en particulier la figure de Tristan et Iseut, vient enraciner cette question de l'amour sans retour et sans récompense, qui est déjà devenu un objet de théologie chrétienne avec les figures d'Augustin et de Denis que tu as traitées, mais qui demeure une question existentielle pour l'humanité, une question philosophique. Et ce sont, je cite, « les interprétations initiatiques des expériences humaines de l'amour » et de traverser de la perversion, fin de la citation, que tu explores ainsi. Dans ce moment médiéval de ton travail, le romanesque permet d'explorer les solutions à cette possible indifférence et cette non-réciprocité. Et le mariage apparaît ici comme la perte de l'amour pur par une socialisation dramatique du désir. Surtout, dépassant le moment proprement chrétien de l'archéologie que tu produis, il faut en venir à la quatrième partie pour rendre compte de ce travail de quête que tu réouvres pour tenir la fécondité philosophique du moment théologique. Les figures de Yankelevitch d'abord, puis de Simone Veil ensuite. Cette dernière te donne l'occasion d'introduire de nouvelles formes de l'amour pur, avec l'amour anonyme du prochain, page 249. Et c'est un retour de l'amour de Dieu par-delà la question du mal. Tu achèves ton parcours avec Eti Ilsoum et une ouverture à l'amour du désir de l'autre comme étant la figure de l'amour pur. C'est donc bien un parcours de sécularisation réussi. La notion d'amour désintéressé, d'amour qui n'attend pas de retour, d'amour qui peut assumer l'indifférence et la non-réciprocité, voilà la notion dont tu fais la généalogie en mettant particulièrement en lumière le moment médiéval. Après toutes ces qualités que je reconnais et dont je me réjouis profondément, sur ce moment médiéval, je serais intéressé de pouvoir échanger sur la place de Maître Eckhart. Les courants féminins mystiques sont largement représentés, avec en particulier la figure tragique de Marguerite Porret et la pérennité de son mémoire. Un bref passage rend compte du mouvement de fond de la mystique réno-flamande. À la vue de l'axe par lequel tu envisages la gratuité de l'amour, il est intéressant que tu relèves, en page 124-125, l'originalité de Mechtilde de Magbourg ou de Marguerite Porret dans le paysage scolastique et doctrinal de son temps. Mais alors que les études descartiennes s'intéressent sur la source qui est peut-être le miroir des simples pour Eckhart, en retour, tu ne développes pas du tout les résonances de la position de Marguerite chez Eckhart. Peut-être est-ce parce qu'il est un homme. On connaît le désintéressement que le Thuringien demande aux fidèles dans leur amour pour Dieu par la critique qu'il développe dans ses sermons de ceux qui aiment Dieu pour leur avantage. Cette fameuse citation du sermon 16, hein, « Certaines gens veulent regarder Dieu avec les yeux avec lesquels ils regardent une vache. Ils veulent aimer Dieu comme ils aiment une vache. Tu aimes celle-ci pour le lait qu'il te donne. Ainsi, toutes ces personnes qui aiment Dieu pour la richesse extérieure ou la consolation intérieure. » Ils n'aiment pas vraiment Dieu. On connaît aussi l'exhortation permanente à perdre son soi au profit de Dieu, et il y a un détachement à vivre de sa propre existence qui coche pas mal de cases de ce qu'est l'amour pur dans la manière dont tu le décris. Voie purgative pour se séparer de ce qui nous éloigne de la pureté absolue de Dieu, mais aussi renoncement de ce fait à ce qui fait nos motifs habituels de l'amour. Le saint est celui qui doit même être détaché de son désir de sainteté, pour se laisser saisir par Dieu intégralement, sans, comme dit Eckhart, ne rien vouloir, ne rien savoir et ne rien posséder. Et ce, jusqu'à ne même pas désirer la volonté de Dieu. Étonnante résonance, je trouve, avec ce désir d'accepter la damnation par amour. Et on retrouve au sermon 17 une haine de soi qui peut être désirable pour Eckhart, en vue même de se laisser aimer par Dieu. On trouverait avec la liberté absolue du fait que l'homme qui est rené parce que le Dieu est né en lui est complètement libre. Cette liberté-là, cette liberté éthique, consonne aussi, me semble-t-il, beaucoup avec le miroir. Et c'est d'ailleurs sur ces thèses-là que Eckhart sera condamné en 1329 dans la bulle In Agro Dominico. Donc, ce sera une des premières questions. Est-ce que c'est parce qu'il est traité suffisamment par ailleurs et que c'est un lieu commun, cette proximité-là, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons sur cette absence de Maître Eckhart ? Plus fondamentalement, ton livre m'a interrogé sur qui aime-t-on lorsque l'on aime Dieu et qu'est-ce que cela change ? Si la notion d'amour est bien forgée comme une notion philosophique, elle a quand même souvent pour objet Dieu. Et je suis resté un peu sur ma faim du fait de l'indétermination récurrente de ce Dieu que l'on aime malgré la non-réciprocité, même s'il nous damnait. La supposition impossible, dont traite le livre, renvoie à l'omnipotence divine, mais les jalons que tu poses ne renvoient pas tous systématiquement au même visage de Dieu. Je ne rendrai pas compte de toutes les diverses options que tu utilises. Il y a un index, mais Dieu ne fait pas partie des personnages dans l'index. Mais je voudrais tout de même soulever la question pour ouvrir un champ que tu ne sembles pas ouvrir. Tu dis bien que Jésus est celui dont l'amour est gratuit et semble pur, il est prêt à y perdre sa vie, mais c'est d'abord pour les hommes, plus que pour son père, page 53, et dans le débat dont tu rencontres entre Saint Bernard et Abélard, entre Bernard de Clairvaux et Abélard, l'amour humain est pour Dieu le Père qui donne son Fils pour nous, et l'amour humain est une réponse à ce don de Dieu pour l'homme. La kénose divine dont tu parles est cet amour de Dieu pour le monde dans une logique de contre-don au Père. Si Dieu se détruit pour moi, alors moi aussi pour lui. Pourtant, tu évoques clairement l'imitation du Christ. lui que le père semble rejeter dans le jardin des oliviers, page 177-178. Et la manière dont tu rencontres de la controverse autour de Fénelon est intéressant à cet égard, car il ne me semble pas que tu écrives le mot Christ dans ces 30 pages. Aussi, ce prisme du Christ, exemplaire de la relation d'amour entre l'humanité et Dieu, me semble peu développé dans ton livre, mais peut-être ne l'ai-je pas assez médité. C'est marquant pourtant, particulièrement avec le traitement que tu fais de Bernard de Clairvaux. Tu approches l'amour pur dans la relation entre Dieu trinitaire et l'âme, page 80. Il me semble que les sermons sur le cantique de Bernard ouvrent à une sponsalité entre l'âme et le Christ, dans la suite de la tradition juive, qui a développé une interprétation de récits d'amour sponsal entre Yahvé et son peuple. Les chrétiens ont emprunté aux juifs cette interprétation en substituant pour l'ordinaire à la forme théocratique une forme christologique. Et le dictionnaire de spiritualité ajoute aussi quelque chose là-dessus. La signification symbolique que Bernard développe vient bien relier les deux dimensions où l'épouse est soit l'âme, soit l'Église, mais dans tous les cas, l'époux, c'est le Christ. C'est le début du sermon sur les cantiques. Salomon, divinement inspiré, a chanté les louanges du Christ et de l'Église. En même temps, il a exprimé le désir d'une âme sainte. Fin de la citation. Et dans cette relation, il y a même de la place pour un amour de la punition dont tu rencontres régulièrement avec cet amour pur, qui viendrait conforter ce que tu dis, y compris à propos de l'amour plus contemporain. Au sermon 29, saint Bernard dit, je cite, « Plaise à Dieu que le juste me corrige et me reprenne avec miséricorde, me frappant pour me guérir, me faisant mourir pour me faire vivre. » Fin de la citation. Avec cela, Bernard vise à une imitation autant qu'à une contemplation, mais le Christ est médiateur par excellence de la relation à Dieu, et donc il y a pour moi une vraie question de cette place du Christ dans cet amour de Dieu. Et dans cette ligne-là, la médiation du Christ entre Dieu et l'homme individuel, il y a un point qui m'a interrogé dans ton livre, c'est l'absence de la pensée franciscaine. Puisque pour Bonaventure, dans le chemin de l'homme vers Dieu, il y a bien une voie purgative pour purifier l'homme, et dans cette voie purgative, le souvenir de la passion et de la croix joue un rôle essentiel. Cette mémoire et cette imitation reposent sur la figure du Christ qui vit l'amour pur et désintéressé. Selon la formule développée par saint François, je cite, « La volonté du Père fut que son Fils béni et glorieux qu'il nous a donné et qui est né pour nous, s'offrit pour lui-même par son propre sang en sacrifice et en victime sur l'autel de la croix, non pour lui-même par qui tout a été fait, mais pour nos péchés, nous laissant un exemple pour que nous suivions ses traces. » Aussi, la grâce des stigmates pour saint François est clairement pensée dans cette ligne-là de la configuration au Christ qui s'offre à son Père. Et c'est dans cette imitation du Christ qu'il y a un amour pur pour le Père qui correspond à l'amour pur que le Christ a pour son Père. Et deux motifs bibliques se trouvent assez souvent reliés comme au fond de la question de l'amour pur quand il se dit en termes chrétiens, me semble-t-il. Tout d'abord, Philippiens 2,8. Le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Abandon de la part du Christ de sa volonté propre au point d'accepter la mort, la déréliction, ce qui fait profondément ce que tu décris de l'amour pur partout ailleurs, pour les filles, en particulier pour les figures féminines. En cela, je pense que le Christ peut devenir le modèle de celui qui renonce à sa vie par amour, amour désintéressé et non réciproque. Et à la contemplation de cet amour pur du Christ, qu'il soit pour son Père ou pour nous, vient s'ajouter l'imitation avec la dimension sociale, et je voudrais terminer avec cette dimension sociale qui est attachée, car dans ce rapport à la souffrance dans l'imitation du Christ, il y a une dimension qui peut assez facilement être ouverte à la dimension de pour l'ensemble du corps. C'est Colossiens 1,24, ce qu'il manque aux souffrances de la croix du Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église. Et cet aspect-là me semble tout à fait intéressant, outre le fait que c'est une des raisons des pratiques méditentielles dans l'Église, il y a là un motif qui pourrait vraiment servir l'issue de ta sécularisation du contexte de l'amour pur, puisque à travers les figures particulièrement de Simone Weil et d'Etty Hillesum, la place de la dimension sociale de l'amour pur et l'ouverture à ce rôle où l'amour sacrificiel, sans attendre indifférent à la non-réciprocité, sans attendre de récompense, se donne quand même, a précisément une pertinence et une fécondité social et dans le corps social correspondant. Je cite Simone Veil, ce que tu dis sur Simone Veil en particulier, la notion d'amour comme utopie concrète en ce qu'il ouvre des espaces affranchis de la force sans pour autant la méconnaître, on serait vraiment dans cette catégorie de pouvoir séculariser Colossiens 1:24, et chez Itil Soum, comme quand tu dis que c'est l'amour, ce désir de mortification consiste à laisser la mort inévitable agir en soi, non pour se laisser détruire, mais pour reconnaître autour de soi la vie du monde et des autres à l'aune de notre précarité. Ce qui vient, à mon sens, précisément réaliser, c'est de manière séculière, ce qu'on pourrait imaginer. Trois questions donc. Pourquoi Eckhart est absent? Qui aime-t-on quand on dit Dieu? Et quelle place a ce tiers médiateur dans la relation de salut entre le Père et l'humanité, où le Fils aime jusqu'à mourir pour que l'autre vive? Et je suis peut-être là pour le contempler et l'imiter aussi avec cette ouverture-là. Au-delà de ces questions, je te redis et mon admiration pour la qualité du travail produit, tant par son contenu que par sa forme, et je me réjouis profondément que tu apportes à la notion philosophique d'amour pur, en pointant par-delà les questions théologiques, non seulement les questions de l'épreuve de l'indifférence et de la non-réciprocité ou du désintéressement, mais aussi des questions de positionnement du désir inaccompli dans ses résonances les plus psychologiques. J'ai pas le temps d'en parler avec vous ce soir, mais ce pan-là me semble une véritable force de ton ouvrage, le fait que précisément ce désir inaccompli vient bien préciser, permettre à l'humanité de se déployer dans quelque chose. Merci beaucoup pour ce beau livre.
Merci Stéphane, merci Élodie. Alors me revient maintenant la tâche difficile de répondre aux questions qui m'ont été adressées. Vous aurez certainement remarqué, vous qui êtes des auditeurs très subtils, que dans beaucoup des remarques d'Élodie et Stéphane se dissimulent quelques remarques, voilà, sur les manques de ce texte. Mais comme ils le font avec élégance et toute leur amitié, c'est merveilleux. Mais donc, il me reviendra quand même la tâche de vous dire, ce qui va pas quand même, dans le livre. En tout cas, ce qui peut être interrogé. Alors, je voudrais commencer avec une chose qui permettra peut-être à ceux qui n'ont pas lu le livre et qui il doit y en avoir beaucoup quand même.
Et qui peuvent l'acheter en sortant.
D'essayer de partir de la question d'Élodie. Est-ce que le miroir des âmes simples et anéanties de l'immense Marguerite Porret est au fond ton foyer, le foyer de ce livre, le foyer de rayonnement de ce livre et au fond le cœur. Et oui, c'est tout à fait exact. D'abord parce que ma thèse portait sur le livre de Marguerite et que c'est elle qui m'a, c'est elle en effet qui m'a fascinée. Élodie a parlé de la fascination qu'on peut avoir pour ces écrivains, pour ces femmes du Moyen-Âge. Je pense qu'il est toujours bon de le rappeler. C'est vraiment plonger dans ces textes. C'est une expérience dont on ne sort pas, dont ne sort pas indemne quand on sait. Parfois le peu d'éducation qu'elles avaient, le peu de connaissances philosophiques et théologiques, de découvrir sous leur plume des audaces spéculatives telles, c'est tout à fait émouvant. Et donc, je me suis engagée dans ce travail sur Marguerite parce que, en effet, j'avais été fascinée par ce texte. Alors, je vais vous lire un petit passage. Peut-être qu'il y a encore un foyer dans le foyer. C'est vraiment le passage qui m'a frappé. Essayer de me retrouver dans mon bouquin. Alors, c'est à peu près à la fin du miroir. Bon, il a une composition très complexe que je vais pas vous raconter parce que c'est très ennuyeux. Mais vers la fin du livre, elle a une conversation avec Dieu. Bon. Et cette conversation, c'est une suite de suppositions impossibles. Donc, la supposition impossible, c'est même si tu me damnais, même si tu me méprisais, même si tu m'envoyais en enfer, même si tu me démembrais, même si tu me... etc., je continuerais à t'aimer, oh mon Dieu, etc. Donc, c'est ça la discussion entre l'âme et Dieu. Voilà, et si... C'est Dieu qui lui fait c'est... Et alors, si je te démembrais, tu continueras à m'aimer. Ah oui, etc. Et là, et à chaque fois, elle est toute heureuse, si vous voulez, de répondre. Elle peut répondre à ça. Elle dit, mais oui, je me sacrifierai, je mourrai. Et alors voilà comment ça se termine. Et après cela, j'ai supposé qu'il me demandait, donc il s'agit bien de Dieu, comment je me comporterais si je savais qu'il pût mieux lui plaire que j'aime un autre que lui. C'est-à-dire, est-ce que t'es prête à en aimer un autre plus que moi? Je vous dis ce qu'elle répond. Mais là, le sens me manqua et je ne sus que répondre, ni que vouloir, ni que répliquer. Je répondis que j'en prendrais conseil. La voilà enfin, cette âme prête à tous les sacrifices, déstabilisée, si vous voulez. Ah là là là. Oh, on n'est plus en amoureux, quoi. On n'est plus en face à face. Et après cela, il me demanda, comment je me comporterais s'il se pouvait qu'il pût aimer, lui, Dieu, une autre mieux que moi. Oh. Ah là encore, le sens me manqua et je ne sus que répondre, ni que vouloir, ni que répliquer. Ah oui, il pourrait en plus en aimer une autre plus que moi. Et bien plus, il me demanda ce que je ferais, comment je me comporterais, s'il se pouvait, alors là encore plus vicieux, hein, s'il se pouvait qu'il pût vouloir qu'un autre que lui m'aimât mieux que lui. Quelqu'un d'autre pourrait l'aimer, cette âme, mieux que Dieu. Oh ! Et pareillement, le sens me manqua et je ne sus que répondre. Alors après, c'est extraordinaire parce que c'est là que la liberté, enfin, elle entre dans le pays de la liberté. Elle est enfin, comme l'a écrit Maître Eckhart, je reviendrai sur Maître Eckhart parce que il a vraiment raison, Stéphane, elle est libérée de Dieu. Enfin ! Elle est libérée de ce Dieu qu'il faut aimer, pour lequel il faut se sacrifier, à qui il faut tout donner, il faut que ma volonté soit sa volonté. Elle est enfin libérée de toute cette théologie sacrificielle qui embarrasse l'amour chrétien depuis toujours et encore maintenant. On lira un petit passage de Jacques Lebrun à ce sujet quand on reparlera de la relation entre le Père et le Fils. Parce que ça, c'est très important. Je l'ai complètement raté aussi. Il a bien raison de le relever. Voilà. Mais si vous voulez, le foyer du foyer, pour moi, c'est ça. C'est que une dame dont on ne connaît rien, sinon qu'elle était béguine, mais qui s'est fait renvoyer de son béguinage parce qu'elle était trop audacieuse, elle était à Valenciennes. Il n'y a pas des très bons échos sur elle dans les papiers, les archives du béguinage de Valenciennes. Elle part sur les routes avec son livre qui est condamné une fois, qui est condamné deux fois, puis elle finit brûlée avec le livre en 1310. Et maintenant, il y a une place Marguerite Porrette, pas loin de l'hôtel de ville. Ça, c'est une magnifique nouvelle. C'est un projet qui avait été conçu à la fin du 19e par une écrivain féministe qui avait proposé à l'Académie française qu'une place soit consacrée à Marguerite Porrette près de l'hôtel de ville, enfin, un peu plus sur elle, là où elle a été brûlée avec son livre. Et ce projet avait été balayé avec beaucoup de mépris par l'Académie. Donc on est très heureux de ça quand même. Ça donc c'est le foyer du foyer. C'est au fond, il y a cette femme dont on ne sait rien, qui a mal fini, mais qui a été capable de penser un rapport amoureux qui ne s'exprime pas dans les termes du sacrifice. Au fond c'est ça, c'est un peu radical. Alors ça c'est passionnant parce que elle appelle ça amour pur. Le terme est omniprésent dans l'ouvrage. C'est pour ça qu'il est aussi le foyer du livre. C'est omniprésent. Ça c'est la première chose. Donc c'est le foyer. Alors deuxième point, je pense que c'est important de le signaler. Mon livre n'existerait pas et mon travail de thèse n'existerait pas si n'existait pas ce livre absolument fondamental de mon maître Jacques Lebrun, Le pur amour de Platon à Lacan, qui m'a permis, par sa propre exploration du pur amour, des figures du pur amour, de me rendre compte que le moment médiéval était presque absent du parcours qu'il proposait, et de m'emparer donc de ce projet. Dire au fond, pourquoi ne pas rendre compte du moment médiéval et en quelque sorte d'écrire le chapitre qui manque avec beaucoup d'humilité au livre de Jacques Lebrun. Parce que toutes nos béguines, toutes les ou religieuses ou femmes que, dont je parle dans le livre, donc cette femme du XIIe, XIIIe siècle, elle ne parle que de ça, hein, l'amour pur, le fin amour, etc. C'est de montrer qu'il y a ici une porosité avec la littérature courtoise, la littérature profane. Donc voilà, ça ne vient pas de rien, mais si vous voulez, c'est difficile de faire un travail sur le pur amour en oubliant, en omettant ce moment médiéval. Mais une fois que, j'aurais pu, disons, entre guillemets, me contenter de faire ça, c'est-à-dire d'ajouter ce chapitre, mais en fait, ça demandait de revoir la trajectoire proposée par Jacques Lebrun, qui est une trajectoire absolument magnifique et absolument brillante, qui consiste, elle, à partir de Fénelon, à partir de la doctrine du pur amour de Fénelon, et d'essayer de comprendre à partir de Fénelon ce qu'il appelle... il prend grand soin, c'est pas une théorie, l'amour pur, c'est pas une doctrine, c'est pas un système, c'est pas ça. Il y a des figures de l'amour pur qui évoluent avec le temps, c'est quelque chose de très labile. Et c'est pour ça que mes collègues ont raison de souligner que l'ambition synthétique, l'aspect très linéaire du livre peut donner l'impression que c'est très simple, voilà, que ça coule de source. En réalité, c'est infiniment complexe. Et donc, bien entendu, il y a des trous dans la raquette, il y a des rapidités, il y a des manques, c'est certain. Mais disons que, en dépit de ces fragilités, je voulais proposer un chemin alternatif à celui que propose Jacques Lebrun. Je vais essayer un tout petit peu de vous expliquer comment. Donc Jacques Lebrun part de Fénelon, la supposition impossible, et une forme de renoncement au salut dans l'amour pur. Et associé, comme l'a rappelé Stéphane, au quiétisme, qui est alors condamné. À cela, Jacques Lebrun interprète ce moment fénelonien à la lumière d'un concept qui est propre à Maurice Blanchot qui s'appelle le mourir. Maurice Blanchot, en quelque sorte, avec Maurice Blanchot, Jacques Lebrun interprète l'amour pur comme un mourir pour rien. Il y a dans la mystique fénelonienne et dans celle de Madame Guyon, selon Jacques Lebrun, qui se sert de Blanchot, vous voyez, c'est un peu complexe, mais c'est nécessaire pour comprendre la démarche. Au fond, il y a dans cette mystique de l'anéantissement une aspiration à mourir pour rien. Alors, on reverra après, qu'est-ce que c'est mourir pour rien? En fait, c'est pas mourir ni pour Dieu, ni pour quelqu'un. C'est donc en fait un mourir sans sacrifice. Une espèce de dépassement de, là encore, de cette configuration sacrificielle dont on parlait tout à l'heure. Alors, ce qui intéresse Jacques Lebrun, c'est de repérer ces figures du mourir pour rien, de l'anéantissement pour rien, du désir de mort, de ce qu'on pourrait appeler la pulsion de mort, en psychanalyse, et donc de la repérer dans des figures qu'il déploie depuis Platon jusqu'à la modernité, en passant par Freud, en passant par Schopenhauer, en passant par Kant, en passant par Sacher-Masoch, ce qui est absolument un chapitre absolument passionnant, etc. Mais disons que, pour caricaturer, l'approche de Jacques Lebrun, elle est plutôt, elle consiste à voir dans l'amour pur une forme d'anéantissement qui serait au-delà de l'anéantissement sacrificiel. Or moi, quand j'ai lu mes autrices et mes auteurs également, parce qu'il n'y a pas que des femmes, bien que j'ai oublié, je t'expliquerai pourquoi Maître Eckhart n'est pas dans la boucle. Il y a une raison quand même. Mais quand j'ai lu ces textes-là, ces textes qui parlent d'amour pur, de fin amour, j'ai pas du tout retrouvé le mourir de Blanchot. J'ai retrouvé, il y avait une, alors pour parler de l'impression du texte, si vous voulez, sans parler dans le sans entrer dans le détail des arguments, parce que là encore, et Élodie nous l'a bien rappelé, ces femmes pensent sans être dans l'argumentation, dans la technicité philosophique. Donc il faut comprendre non seulement ce qu'il y a dans le texte, mais comment il est produit, comment il est, dans quelles circonstances, à quoi il répond, avec quoi il est en dialogue, notamment avec les textes institutionnels. Bon. Et donc il y a dans ces textes un humour, un dégagement, un jeu permanent avec les autorités. Parfois, elles sont même assez moqueuses. Hein. Je peux vous dire Gertrude de Helfta, elle est très amusante pour subvertir des propositions théologiques qu'on a dû lui ressasser depuis sa petite enfance. Vous voyez. Donc, j'ai retrouvé non seulement du fait du style, mais également du fait de ces énoncés, de ce type d'énoncés tel que j'ai pu vous le lire tout à l'heure, celui de Marguerite Porrette, qui se dégage du sacrifice, du dispositif sacrificiel, mais pas par la mort, par l'amour. Alors là, il faut comprendre ce que c'est que l'amour, d'accord ? Ce que je reproche un peu à Jacques Lebrun, finalement, c'est de transformer l'amour en mort. Bon, et je suis bien d'accord qu'il y a de la mort dans l'amour, etc. Que c'est pas. Mais je dis, il y a autre chose. Il se passe quelque chose dans ces textes qui n'est pas le mourir de Blanchot, qui n'est pas l'anéantissement pour rien, qui n'est pas je pense que vous avez compris. Voilà, ça c'est pour, si vous voulez, le projet de ce livre. Une grande difficulté, et ça Élodie l'a bien souligné, c'est le problème disciplinaire. Et ça, c'est une des fragilités du livre, c'est-à-dire que on circule de textes littéraires, textes théologiques, des textes philosophiques, de textes religieux. Alors, j'ai un moyen de me défendre, c'est qu'au Moyen-Âge, ces textes sont tellement contaminés les uns par les autres, notamment mon corpus, que c'est extrêmement difficile de les mettre dans des cases, si vous voulez. Très souvent, lorsque je parlais de mon sujet de thèse, on me disait « mais c'est une thèse en philosophie ». Mais pourtant, tu parles de théologie, spiritualité. Je dis « mais en fait, j'interroge philosophiquement, et je pense que c'est un droit de tout philosophe, j'interroge philosophiquement des textes théologiques, des textes spirituels, des textes religieux ». Alors, la fragilité, elle peut venir du fait que il faut tenir toutes les la singularité des méthodes pour chaque type de texte, voilà. Mais j'assume cette transdisciplinarité parce que c'était la seule, à mon avis, qui convenait au texte que nous avions entre les mains. Et Élodie, je pense, a rappelé quand même la difficulté qui était la nôtre de constituer tout simplement ce corpus. Nous avons été aidés par des chercheurs assez extraordinaires, notamment allemands, et qui ont essayé d'éditer ces textes dans des articles, dans des revues particulières. Donc on a bénéficié d'un travail absolument considérable, et puis de chercheurs absolument formidables comme Jeanne Ancelet-Eustache, qui s'est passionnée pour ces auteurs mystiques. Donc voilà, on était portés par tout ce travail, mais malgré tout ça reste quand même à défricher et à interpréter. Voilà. Mais moi, je me suis autorisée à interroger philosophiquement ces textes dans leur dans leur caractère composite, de manière à rendre compte, oui, d'une pensée qui est à l'œuvre, en dépit de sa peut-être non-conformité aux critères académiques d'un texte théologique ou philosophique. Tu voulais peut-être qu'on revienne sur le gauchissement du miroir, c'est ça ? Attends. Oui. Oui, c'est ça. Parce que ce qui a été passionnant pour essayer de comprendre la transformation, parce que c'est ma thèse, si vous voulez, c'est que l'amour pur tel qu'il se formule dans les textes médiévaux, petit à petit, est en effet gauchi, travaillé, transformé jusqu'au XVIIe siècle, et il perd cette vitalité, cette liberté que je lui reconnais dans les textes médiévaux. Ça, disons que c'est le nerf de la guerre. Ce qui m'a aidé, c'est de suivre la transmission du miroir de Marguerite Porret jusqu'au XVIIe siècle, puisqu'elle est citée, elle est connue, Marguerite au XVIIe, même si son texte, ayant été interdit, ayant été brûlé, n'est pas transmis. En fait, il s'est transmis de manière souterraine, cachée, notamment dans des monastères. Bon, il a été copié, il a été transmis non pas dans son intégralité, mais aussi par fragments. Bon, et ça nous permet de voir que petit à petit, enfin qu'on a du mal à le lire tel que. Alors nous, on ne va pas faire l'histoire des manuscrits, mais le texte que nous avons, que nous pouvons lire aujourd'hui, n'est pas le texte original. C'est une traduction en français médiéval, et puis là on a une traduction en français moderne. Voilà. Donc il faut savoir aussi qu'on n'a pas un accès immédiat au texte original, mais disons que le texte tel sans doute qu'il était, c'était très difficile de le transmettre, parce que une proposition comme celle que je vous ai lue tout à l'heure, ces suppositions impossibles, sous la plume d'un copiste du début du XVIe siècle, c'est aberrant. Hein, il le dit, ce sont des suppositions impossibles, c'est tout à fait inconvenant d'imaginer que Dieu puisse poser des questions pareilles et qu'il puisse engager l'âme dans cette espèce de dialogue un peu fou. Bon. Et donc, il ne copie pas ce passage. Et il transforme le texte et il en fait, si vous voulez, alors, si en caricaturant bien entendu, une sorte de texte très affectif. Voilà, c'est l'âme qui aime son Dieu, avec une grande dissymétrie entre l'âme amoureuse et son Dieu. Là là, reviennent tous les affects que toutes nos béguines, et notamment Marguerite, essayent de mettre de côté, c'est-à-dire la crainte de Dieu, la crainte de la damnation, bien entendu, le désir du salut, etc. Donc en fait, petit à petit, dans ce texte qui était pourtant d'une audace extraordinaire, eh bien, sont réinjectés des éléments de mystique affective, et nous en tenons pour responsable notamment Gerson, qui a fermement condamné l'expression trop intellectuelle des femmes dans la spiritualité, et qui leur a dit, écoutez, je caricature là encore, vous les femmes c'est le cœur et vous les hommes c'est l'intellect. Voilà. Et donc disons que ce gauchissement dans la transmission du miroir peut être attribué en partie à Gerson. Ouais, ça je serais plus assez précise là-dessus. Peut-être que toi tu aurais des éléments. Peut-être après. Ok. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai bien. Je pense pour tes questions, Élodie, je pense que ça. Alors, Stéphane. Ça va? Vous n'êtes pas épuisé. Voilà. Bon, Stéphane, voilà. Alors, Maître Eckhart, hein, on va y aller, franco. Maître Eckhart, donc Stéphane l'a rappelé, Il y a un voisinage, voire des connivences entre certaines expressions du miroir de Marguerite Porrette et les textes de Maître Eckhart qui laissent penser qu'il a eu accès au miroir ou du moins à certaines de ses propositions. Et Maître Eckhart ayant lui aussi été condamné pour des propositions audacieuses, notamment sur la liberté propre à l'âme, dont on a parlé tout à l'heure, j'espère que c'est juste qu'il faut se libérer de Dieu, on est d'accord hein, que c'était bien. Voilà. Ce voisinage, cette proximité a pu laisser penser voilà, qu'il y avait une réelle affinité. Ensuite, les historiens ont repéré aussi des proximités de lieux. Voilà. Donc, en effet, il y a un lien, et qui n'est pas seulement... qui est un lien très profond. Alors, Maître Eckhart est un monument. C'est un monument auquel il est difficile de s'attaquer sans une crainte terrible. Ça, c'est une première chose, la peur de dire des bêtises. Deuxièmement, le souci de rester attaché à la méthode lexicale, c'est-à-dire amour pur. Et donc, voilà, ce qui me permettait quand même, si vous voulez, de suivre l'expression, tout simplement, amour pur, bon, avec dans sa forme aussi médiévale, fin amour. Ça me permettait quand même de tracer un chemin, parce que si vous voulez, si on s'intéresse à l'amour désintéressé sans désir de récompense, en fait, on a un torrent de théologie chrétienne qui s'ouvre à nous. Et donc, il m'a été nécessaire, tu vois, de rester attaché. Alors, ça a ses limites, ça a ses limites. Et notamment, ça a ses limites dans l'économie de l'ouvrage, parce que, au début, j'essaye de... Comme j'interroge philosophiquement l'amour désintéressé. Je m'emploie à faire un peu le point sur la philosophie, la question de l'amour désintéressé dans la philosophie ancienne. Mais lorsqu'il s'agit du christianisme, je m'attache à cette expression d'amour pur pour quand même tracer un chemin qui soit cohérent et qui nous mène jusqu'à Fénelon. C'est pour ça. Mais ça me fait rater beaucoup de choses, notamment Eckhart, qui... à mon avis, est une source pour les auteurs du XXe siècle dont je parle. Et tu le dis d'ailleurs, le seul endroit où il est présent, finalement, c'est dans tes notes de bas de page quand tu parles de Thiel Zoom ou de Simone Veil. Et en effet, c'est quand même passionnant de mesurer à quel point Maître Eckhart a été une source de ces philosophes-là qui essayent, comme tu l'as dit, de séculariser quelque chose de l'amour chrétien, essayer de comprendre philosophiquement et non confessionnellement, il en est de l'amour chrétien. Donc ça c'est pour Maître Eckhart. Donc je te remercie pour ta remarque. Et la position de Marguerite chez Eckhart. Alors, il y a un point qui est Alors l'absence de la pensée franciscaine aussi, mais peut-être que l'absence de la pensée franciscaine, on peut en parler en même temps que nous parlons du Christ. Alors ça, vraiment, ça c'est un point majeur hein, que Stéphane soulève. C'est-à-dire, Dieu dans la philosophie ancienne, mais si tu parles de la théologie chrétienne ou de la spiritualité chrétienne, tu ne peux pas parler d'amour de Dieu comme ça. Il faut que tu puisses préciser un peu de qui il s'agit, puisque nous avons, on en a trois en un. Donc, est-ce que c'est le Père, est-ce que c'est le Fils, ou est-ce que c'est l'Esprit, est-ce que c'est le Christ? Et l'Esprit aussi, on l'a oublié, tu vois. Et alors, ça, en effet, c'est tout à fait flottant dans mon livre, et c'est très, très regrettable, parce que ça ouvre un champ infini de réflexion. Alors, je vais essayer de remettre mes idées dans l'ordre pour que ce soit à peu près clair. Si, alors, si vous voulez, c'est présent dans le livre, mais pas, c'est pas clarifié. Voilà, c'est pas. Notamment, j'ai proposé un chapitre sur la spiritualité du Christ au jardin des Oliviers, et donc en effet, dans l'idée de l'amour pur de Dieu, il y a l'idée de l'imitation du Christ, puisque celui qui a aimé purement Dieu, c'est le Christ, sans attendre de récompense, de manière parfaitement désintéressée, jusqu'à la mort. Donc en effet, une figure majeure de l'amour pur, c'est celle de l'imitation du Christ. D'où la nécessité d'introduire la pensée franciscaine dont tu nous as parlé. Bon, absolument. Alors, en quoi c'est tout à fait passionnant? C'est que il me semble que c'est l'insistance sur l'imitation du Christ, c'est le christocentrisme de l'amour pur à partir du XVIe siècle, c'est une hypothèse que je fais, qui abonde, en tout cas qui contribue à gauchir mon amour pur médiéval. Donc je caricature là encore et ensuite il faudra discuter parce qu'évidemment je lance des choses. En gros, je dirais que c'est l'insistance sur l'imitation du Christ. Je vais me sacrifier comme le Christ s'est sacrifié, qui nous conduit à cet amour pour rien, cet amour d'anéantissement qui s'exprime chez Fénelon. Et alors là, j'ai repensé. Parce que avec Stéphane, nous avons discuté un petit peu. Ça a été une chance pour moi parce que j'ai repensé à un texte de Jacques Lebrun. Le voilà, regardez, j'ai sorti le texte. Alors, l'article s'appelle « Fénelon, un fils est tué ». Alors, je vais vous lire juste un petit rythme. L'idée est la suivante de Jacques Lebrun, en tout cas ce qu'il essaye de montrer chez Fénelon. C'est qu'il y a un impensé dans sa doctrine du pur amour, mais aussi dans ses textes moraux, c'est ce que Jacques Lebrun appelle l'anathème du père sur le fils. Au cœur de l'amour pur, de cette idée d'un mourir pour rien, il y aurait une exacerbation, une exagération, une espèce de d'hyperbole, d'un impensé de la théologie chrétienne qui est que le père tue son fils. Le père voue son fils à la mort. Alors, je vous lis le petit chapitre, comme ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le maître. Page 526 du recueil « La jouissance et le trouble » dont l'article c'est « Fénelon, un fils est tué ». Or, la théologie propose une image de l'amour pur. Donc il parle de l'amour pur et dit, mais en fait, l'image par excellence de l'amour pur, c'est celle-ci. Le fils abaissé, voué à la mort, abandonné sur la croix par le père, cette passion implique logiquement dans le père une volonté de mort, une perversion, impuissance ou faute de la volonté salvifique. Cette conclusion logique, la théologie interdit de l'écrire, et à essayer inlassablement de la contourner en conciliant l'inconciliable, l'exécution du fils comme échec ou crime du père, le consentement de la victime comme ce qui comble le père. Alors, ça ne termine pas là, ça continue à développer cette idée, si vous voulez, que finalement, l'anathème dont parle Paul, je veux être anathème comme le Christ, l'anathème qui est présent également dans la Bible, le vœu de Jephté et alors je vous cite Exode 32:32. Bon, eh bien, ce motif biblique, il porte, en tout cas, il exprime, eh bien, cette réalité qui est propre à la théologie chrétienne, que le Père met à mort son Fils. Et ce serait ça. Alors, moi, je ne suis pas théologienne, donc bien entendu, je ne peux pas venir au secours de ce que dit ici Jacques Lebrun. Mais ce qui m'intéresse, c'est que, au fond, la relation entre le Père et le Fils dont tu parles, elle nous permet d'éclairer aussi une dimension de l'amour pur dans ce qu'il a de sacrificiel et d'excessivement sacrificiel, puisque au fond l'idée de Fénelon est de dire, mais l'amour pur, ce que c'est de dire Jacques Lebrun, c'est au fond l'amour pur, c'est une tentative d'échapper à ça, c'est une tentative d'échapper à cette idée que le Père a mis à mort son Fils, parce que on renonce au sacrifice. Et peut-être qu'au fond tout l'effort de la théologie est de faire avec cette contradiction, c'est-à-dire de penser un amour désintéressé, penser un amour non réciproque, penser un amour qui ne soit pas mercenaire, etc. Peut-être que c'est une façon de sortir du sacrifice. Dans le sacrifice, il y a toujours de la tractation, de l'échange, du je me sacrifie pour, en échange, je veux une récompense, et peut-être que toute la théologie est traversée par cette tension contradictoire. Comment on sort de cette histoire de sacrifice? Et qu'on n'en sort pas complètement, parce que de toute façon, on est structuré par ça. Le sacrifice est en rapport intime avec la filiation. Ça nous demanderait d'entrer dans des considérations anthropologiques trop vastes. Mais, en tout cas, je te remercie, parce que ça me paraît fondamental, cette histoire la relation entre eux, pour comprendre quelque chose de cet amour pur. Et ça demanderait de revoir aussi quelle est la figure, quel est le Christ de ces auteurs médiévaux aussi, quelle est leur relation au Christ.
Et pour aller dans ton sens, je pense qu'en particulier les autrices que tu cites, elle, pour le coup, c'est une relation avec le Père. Et que de ce fait-là, en fait, il y a une vraie question de savoir. À l'étage médiéval, je pense qu'on ne pourrait pas traiter les choses de manière équivalente entre le choix. Les béguines, me semble-t-il, ne sont pas dans une logique d'épousaille du Christ. Ça dépend desquelles. D'accord. Parce que pour le coup, Bernard, si, mais pas.
Les textes lyriques, elles sont beaucoup dans l'amour du Christ, l'épouse du Christ, et
parfois
de manière un peu...
J'ajoutais juste que dans les poèmes de Béguin, qui malheureusement n'existent pas dans une édition facilement accessible, qui sont encore dormants dans des manuscrits, il y a un amour du Christ qui est réellement exprimé jusqu'à des connotations quasiment érotiques. Voilà. Oui.
Voilà, ça me semblait vraiment un point très important. Je te remercie beaucoup aussi pour la citation de Paul. Ce qu'il manque aux souffrances de la croix du Christ, je l'achève en ma chair. Ça veut dire que le sacrifice, il n'est pas complètement abouti, finalement, celui du Christ. C'est un peu raté.
Michel Fédou donne cours dans la salle d'à côté.
Voilà, donc ça, il faut qu'on y aille. Non, ça, mais ça dit donc que cette phrase, elle pourrait aussi rendre compte de notre théologie. Voilà, je pense qu'on a assez parlé et qu'il serait temps de vous laisser la parole. Oui, Henri.
Sur la question de l'amour, ces écritures soient évidemment un lieu central et qui aurait pu jouer sur la conception des textes auxquels vous faites référence. Or, ça ne semble pas être le cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, enfin, si c'est une vraie question, qu'est-ce qu'on peut dire de ce rapport ?
Élodie, je pense que tu pourrais... Alors, à propos de Marguerite en particulier, elle est réputée avoir traduit les évangiles en langue vernaculaire, même si on n'a pas retrouvé cette traduction. En tout cas, c'est mentionné lors du Concile de Vienne. Et on trouve un certain nombre d'inspirations, on ne peut pas dire de citations bibliques dans son texte, mais on repère des images, des références, des allusions. Très nombreuses, autant à l'Ancien qu'au Nouveau Testament. Et donc, c'est dans un dialogue avec les textes sacrés, vraiment, que s'écrivent ces textes de Béguine et de femmes mystiques en général. On peut peut-être indiquer qu'il y avait davantage de traductions à l'époque qu'on ne peut le croire, qu'on ne le sait habituellement, notamment du Cantique des Cantiques, qui a vraiment été un best-seller à l'époque, mis en poèmes, mis en chansons, et qui a en effet beaucoup inspiré les poèmes béguinaux et jusqu'à la lettre des textes ou à certains concepts, même chez Marguerite, le dispositif de l'âme qui discute avec Dieu, l'âme épouse, ça va être une métaphore qui va être filée. Selon le modèle des textes lyriques, des textes poétiques, en fait, de la Fine Amor, qui eux aussi mettent en place un certain nombre de métaphores, maladie d'amour, feu d'amour, et qui après les prennent au sérieux et vont les filer pendant des pages et des pages. Donc là, la source de ces métaphores est plutôt en effet biblique, même si c'est pas forcément par une lecture du texte latin encadré par l'institution.
Oui, alors
elle l'a. Alors, on la trouve chez Paul. En fait, la source, elle est d'abord paulinienne, celle de la supposition possible. Et puis, si tu veux, on trouve dans la Bible des formules qui peuvent s'en rapprocher, ou en tout cas qui sont mobilisées dans les textes médiévaux pour mettre la bienveillance divine ou la bonté divine en question. Vas-y.
Alors, on inverse les rôles, mais je pense que dans l'amour courtois, en fait, une des sources quand même très fortes, à mon sens, de la cristallisation de la supposition impossible dans ces textes-là, et c'est à mon avis une des vraies forces d'être allé chercher Tristan et Iseut et une partie de l'amour courtois, c'est qu'en fait, on a dans la constitution de l'amoureux et conduit, on a vraiment une sécularisation, j'aime beaucoup le terme, mais voilà, du Cantique des Cantiques, qui là où ça se passe bien dans le Cantique des Cantiques, ça se passe mal dans la vraie vie, et donc les romans viennent acter cette non réciprocité au plan purement humain. Et je pense que c'est en particulier, et alors je pense que la place de ces toute cette littérature courtoise et de cette transformation de la littérature courtoise où la dame devient la juge de la capacité de l'amour de l'amant est presque plus forte que la citation paulinienne et va orienter la compréhension de j'aimerais être anathème parce qu'effectivement le j'aimerais être anathème pour mon peuple qui est l'accroche paulinienne, elle a été, à mon sens, déformée avec le temps.
Ajouter quelque chose. Dans les textes qui nous sont parvenus, qui sont intitulés « Les demandes d'amour », qui étaient des exercices rhétoriques dans des cours seigneuriales, où on posait une question, on dirait presque de casuistique amoureuse, il y avait souvent beaucoup d'audace à mettre à l'épreuve l'ami et à poser des questions qui relève presque du dilemme, à savoir, par exemple, faut-il préférer le haut ou le bas du corps de l'aimé, de la dame, ou alors entre deux amis, faut-il choisir celui qui exprime son désir ou celui qui au contraire ne l'exprime pas. Et donc, dans cette espèce de provocation aussi, hein, de la pensée, pour réussir à purifier l'amour et à l'obliger à aller encore plus loin dans son engagement, dans son expression, on a en effet un parallèle assez éloquent avec ce passage, notamment de Marguerite. C'est d'ailleurs toi qui me l'avais dit.
J'aimerais comprendre qu'est-ce qu'on aime quand on aime pour rien.
Alors, bien sûr, dans aimer pour rien, il y a des objets. C'est aimer pour rien. Qu'est-ce qu'on aime ? On peut aimer les autres, on peut aimer l'univers, le monde, la réalité, son chien, son chat, c'est pas. Mais les aimer pour rien, c'est ça la proposition qui me semble. La plus fondamentale de nos textes médiévaux.
Est-ce qu'on n'aime pas la satisfaction de persévérer dans sa propre conviction, la fierté d'être fidèle à quelque chose qui n'existe plus? Autrement dit, est-ce que c'est pas, d'un certain point de vue, une propre auto-exaltation?
Alors, n'hésitez pas à lire Le miroir des âmes simples et anéanties, parce que, pour le coup, Élodie l'a très bien dit tout à l'heure, il y a un point de bascule. C'est-à-dire qu'il y a, cette notion de satisfaction, y compris d'auto-satisfaction, devient dépassée, en fait. Et que la notion de thérapie, d'auto-thérapie, en disant, je me désintéresse de la récompense, mais le fait de me désintéresser de la récompense et finalement ma récompense, en fait, il y a un point de dépassement, juste me semble-t-il, chez Marguerite et dans ce mouvement-là, qui est précisément orienté sur l'objet Dieu et dont on va mais où précisément de ce fait-là, on va plus avoir de mérite. La question du mérite ne va être même pas de. C'est la question du dépassement de. J'aime la volonté de Dieu qui me demande de me départir. Je n'aime même pas cette volonté de Dieu, en fait. Il y a un au-delà de cette autosatisfaction, je crois.
Beaucoup de choses. Alors, beaucoup de choses, des choses variées, c'est tellement vaste, si tu veux, que... Qu'est-ce qui t'intéresserait ? Peut-être...
la question sous-jacente, est-ce que la psychanalyse ne balaye pas d'un revers de la main cette théorie de l'amour pour rien, en disant, pour rejoindre, on n'aime jamais pour rien. Qu'est-ce qu'on aime quand on...
Oui, alors en fait, il faut comprendre ce qu'on entend par pour rien. Je crois que c'est là que... Qu'est-ce que c'est pour rien ? C'est aimer. Alors, ça peut paraître tout à fait étonnant, et puis quand même, ça nous questionne. Mais je n'aime pas dans les catégories, avec les catégories du don, même du don de soi, parce que dans le don, il y a toujours un contre-don. Il y a toujours une tractation, il y a toujours un échange. Bon. Donc, ça veut dire aimer pour rien, aimer en se dégageant de cette structure de notre pensée, mais qui est extrêmement présente. On ne cesse de parler de l'amour dans les termes du don. Parce que derrière le don, là encore, il y a le sacrifice. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me dis, au fond, j'aime parce que je me sacrifie, je suis pas dans l'amour pour rien, selon nos mystiques. D'accord ? Donc, ça veut pas dire... Ça veut pas dire... rien, c'est énorme, en fait. Rien, c'est énorme. Alors, voilà, ça, c'est important. Rien, c'est immense. Je vais vous donner une petite anecdote, comme ça, on va se reposer un peu. Et la fille de Georges Bataille, Laurence, qui était psychanalyste et qui est morte malheureusement très jeune, explique ça dans un entretien. On lui demande, bah, c'est quoi votre métier qui consiste à recevoir des gens, à les écouter et à ne rien leur dire et à leur prendre leur argent. Parfois beaucoup d'argent. Et elle dit, mais parce que la non-réponse, ça vaut beaucoup. Le rien, c'est immense. Ça veut dire, en fait, on n'a pas réponse à tout. On n'a pas de retour à tout ce qu'on donne. On n'a pas de récompense, des efforts qu'on déploie. On n'a pas de compensation. C'est ça que ça veut dire, aimer pour rien. Ça veut dire ne pas s'inscrire, c'est assez simple, dans... Même parler de sacrifice de soi, de don de soi, etc., ça, c'est encore intéressé, c'est encore sacrificiel. Ça ne plaît pas à nos mystiques, tu vois. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas, par ailleurs, heureux. Au contraire, on en a une joie, on en a une joie infinie, on en a une joie débordante, hein, qui est pas justement qui n'est pas la joie d'être récompensé, qui n'est pas la joie d'avoir un retour de ce qu'on... Ça. Même en fait, aimer, c'est même pas penser qu'on aime, ou penser qu'on donne, ou penser qu'on sacrifie. Ça. Oui, je te remercie parce que, disons, si tu veux, la question philosophique était la mienne, c'était ça. En fait, nous entretenons d'innombrables relations qui sont non réciproques. C'était ça, si tu veux, on a des relations avec les gens que nous avons perdus, on a des relations avec nos animaux qui sont quand même, dont la réciprocité est beaucoup fabriquée par notre esprit, comme l'a indiqué monsieur tout à l'heure. Bon, on a des relations... On a des relations non réciproques avec la nature, avec le monde. On a des relations non réciproques avec les générations à venir. Moi, j'ai une relation avec, déjà, avec mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, mais eux... Donc, en fait, on a quantité de relations qui ne sont pas réciproques. J'appelle obliques, parce qu'au fond, il y a une forme de retour malgré tout, il y a une forme, mais qui n'est pas celle de l'immédiateté, de la réciprocité, et même de l'échange, du dialogue, de ça. Voilà. Et ce qui m'intéressait, c'était que cette non-réciprocité, elle était formulée parfaitement dans ces textes qui me passionnaient, et qui passionnaient Elodie, qui passionnent Stéphane, qui essayent de comprendre comment ça fonctionne, cet affect-là, cet attachement à des objets dont le retour n'est pas certain. Ça, c'est la grande colle de la soirée. Alors, je passe à Elodie. Qu'est-ce que t'en penses, Stéphane?
Alors, moi, je ne peux pas répondre sur les autrices, mais ce qui, pour en tout cas, la notion de rachat qui serait en attente de récompense chez Maître Eckhart, et pas dans on n'est pas dans cette catégorie-là. et le Christ est suffisamment libre, enfin, il est l'homme libre, il est l'homme juste. Et donc la question n'est pas la place du Christ n'est pas directement la question sacrificielle, en tout cas chez Maître Eckhart. Pour les autrices, je ne saurais pas dire, mais y a vraiment un dépassement de la catégorie, soit un dépassement de source, soit un dépassement de fin, mais il y a un dépassement, en fait. Avec les questions que ça peut soulever de manière très forte sur la consistance du mal subi.
Et en fonction des textes des autrices, on ne va pas forcément avoir la même réponse non plus. Concernant Marguerite, qui a quand même une pensée très singulière, le moment où on voit apparaître le Christ, c'est à propos de la déploration de la Vierge. Le pardon qui est accordé à ceux qui ont assassiné le Christ, c'est le pardon qui vient de la Vierge. Donc il y a un déplacement de point de vue en fait, hein. Et c'est comme si, alors là c'est une hypothèse aussi de recherche, mais c'est comme si l'âme était à la place du Christ pratiquement, puisque l'âme en se purifiant va devenir Dieu, elle devient amour, et c'est là aussi où on arrive à cette idée d'aimer pour rien, c'est-à-dire qu'il y a une fusion de l'âme avec Dieu, de l'âme avec, c'est Dieu est amour et amour est Dieu, hein. Donc l'âme devient amour. Bien qu'il n'y a plus d'objet, il n'y a plus de finalité, enfin, tout est complètement aboli, en fait. Oui, on arrive à l'anéantissement de la volonté, au vide. Ça peut évoquer certaines mystiques orientales aussi, hein, cette dimension-là. Et c'est vrai que la place du Christ est étrangement vide, mais c'est peut-être parce qu'elle est occupée par quelqu'un d'autre, enfin, voilà, par l'âme elle-même. Les Béguines avaient développé une représentation de la Vierge à l'enfant. On ouvrait, c'est les Vierges ouvrantes, hein. On l'ouvre et on a la Trinité représentée dans le ventre de la Vierge. Bon, c'est assez éloquent aussi et ça demanderait peut-être à être étudié en lien avec un certain nombre de textes.
Justement, je me pose la question, on cherchait un lien de cet amour pur, on ne peut pas se connecter à l'économie, en l'occurrence, la vision. L'image du prêt au cours du temps, puisque toutes ces lignes, elles ont développé un peu à l'origine de l'amour du Sacré-Cœur de Jésus. C'est un petit peu la filiation. Est-ce qu'on n'aboutit pas à un certain moment à Sainte
Marguerite Marie
et sa vision du cœur de Jésus magnifié.
Alors, il faudrait demander à des gens plus compétents que moi, en tout cas, mais je pense que la filiation est douteuse.
Oui, elle
me semble-t-il, hein, mais je...
Oui.
Parce que autant pour reprendre ce que disait Elodie, il y a clairement une union, une fusion, une fusion avec distinction, enfin, l'âme devient Dieu à une place particulière, enfin voilà. Mais il n'y a pas, me semble-t-il, de débordement de la représentation du cœur. La représentation sponsale du Cantique des Cantiques ne passe pas par un cœur à cœur sentimental. Il ne faudrait pas que Marie-Caroline m'entende sur le Sacré-Cœur pour dire que c'est sentimental, mais voilà, enfin je suis pas dû. En tout cas, j'ai jamais vu de filiation de pérennité dans cette dimension-là.
Oui, les Béguines ne sont pas forcément très attachées à l'image ou à la métaphore du cœur comme image de l'amour. Ça, c'est une image qu'on trouve beaucoup dans les textes courtois eux-mêmes. La lyrique courtoise, le don du cœur, je mets mon cœur en gage, on trouve ça jusqu'à chez Charles d'Orléans, par exemple. Les Béguines sont attachées à d'autres images, le flux d'amour, le feu d'amour, voilà, on a tout un réseau comme ça d'images qui sont filées, qui se répondent. Et sur le plan des sacrements ou des symboles attachés à la dévotion, ce sur quoi elles vont être très présentes, c'est l'Eucharistie. Puisque Julienne de Cornillon va faire instaurer la fête de Dieu avec l'appui d'un certain nombre d'ecclésiastiques et l'appui très, très, très fort, hein, donc Godefroy de Fontaine notamment. Elles ont d'autres objets privilégiés de dévotion que le cœur ou le Sacré-Cœur, hein, enfin le futur Sacré-Cœur.
Je viens d'ailleurs d'apprendre que le béguinage de Julienne de Cornillon était à nouveau actif. Il est réinvesti par une communauté de béguines. Celui de Julienne de Cornillon, qui est en Belgique. Il faudra le préciser. Je ne sais plus exactement.
Pas très loin de Bruges.
Donc, à nouveau des béguines. Oui. Alors, des béguines dans un format contemporain. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Stéphane et Élodie. Merci à vous pour votre présence et votre écoute.